et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour Amandine.
Bonjour.
Comment tu vas?
Je vais vraiment très bien et toi? Un peu froid aujourd'hui, mais vraiment bien.
Écoute, pareil, on va réchauffer les cœurs avec le podcast.
Parfait.
Top. Ben, en tout cas, merci beaucoup de venir au micro de Amcamgram. Je suis très contente de te recevoir. C'est vrai que jusqu'à présent, toi et moi, on avait l'habitude d'échanger plutôt dans le cadre, on va dire, scolaire, puisque je donne des cours à la Rocket School. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas nous donner un cours, puisque tu travailles depuis quelques mois donc à la Rocket School en tant que Customer Success Manager Pédagogie. Pour rappel, Rocket School, c'est une école de commerce et de marketing nouvelle génération. L'idée, c'est de former des personnes en reconversion sur les métiers de demain, comme par exemple BizDev, CSM ou encore Growth Hacker. Donc, c'est vrai que là, pour l'instant, j'avais interrogé différents account managers et customer success managers, mais j'étais assez loin de m'imaginer qu'il existait ce type de poste dans des écoles. Et du coup, bah, je suis ravie de t'avoir, Amandine, pour que tu m'en dises davantage sur tes missions au quotidien. Mais avant de commencer, peux-tu me dire quel est ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Ah, eh bien, c'est une question qui est un peu difficile pour moi parce que j'aime beaucoup cuisiner, donc j'aime faire beaucoup de choses et c'est sûrement mon côté artistique qui s'exprime là-dedans. D'ailleurs, j'ai un petit jeu où j'essaye de refaire les plats que j'ai mangés quand je vais au restaurant. j'essaye même de l'améliorer et tout ça, donc c'est mon petit jeu perso. Et j'ai même d'ailleurs un jeu avec mon voisin qui est né notamment du confinement, du premier en tout cas, où on avait ce jeu de se donner une assiette et elle revenait jamais vide en fait. Donc on s'échangeait nos petites recettes et tout ça, donc c'est plutôt chouette. Mais pour vraiment répondre à ta question, la première chose qui me vient en tête, c'est la tomate mozza. Et oui, à côté de ce que je viens de dire, ça paraît super simple, mais en fait c'est parce que c'est rempli de souvenirs pour moi. Je mangeais beaucoup ce plat-là avec la maman de mon filleul, qui est donc ma meilleure amie, avec qui j'ai vécu plein d'aventures, notamment celle aux États-Unis avec elle. Et il me manque beaucoup parce qu'ils y sont toujours. Et en fait, elle m'a surnommée Tata Mozza, suite à tous ces plats de tomates mozza qu'on a mangés ensemble.
Très chouette. Bon, bah écoute, Tata Mozza, je te laisse sortir de l'anonymat.
Parfait. Eh bien, moi, je m'appelle Amandine, j'ai 26 ans. Par rapport à, si je peux faire un petit point sur mon parcours, on peut le qualifier de diversifié. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs environnements et domaines, le marketing, la communication, le design, le recrutement et plein d'autres domaines, le coaching, etc. Et je me suis posé la question à un moment donné, après toutes ces expériences-là diverses, de quel était le fil rouge de ces expériences, de qu'est-ce que j'ai le plus apprécié. Et en fait, ça a été pour moi le fait de travailler en mode projet, d'améliorer, d'optimiser tout ce que je peux et surtout la dimension humaine, l'accompagnement et d'un autre côté, l'état d'esprit de l'entreprise dans laquelle je suis. Du coup, j'ai mis tous ces éléments dans une box, je les ai croisés à mes expériences, j'ai secoué bien fort et j'en suis venue à m'intéresser au métier de CSM. C'est comme ça que j'ai découvert Rocket School, puisque il y a une petite histoire qui est quand même liée à mon intégration chez Rocket. C'est qu'à la base, je candidatais pour le master et j'ai passé donc toutes les étapes, j'ai eu de bons résultats et au moment de passer à la dernière étape, on m'a appelé pour m'expliquer que le master était suspendu pour en faire une version encore meilleure d'ici quelques mois. Et c'est sur le ton de la plaisanterie que j'ai dit « À moins que vous ayez besoin de quelqu'un pour vous aider sur ce master ou sur autre chose, on se revoit d'ici quelques mois. » Et on m'a répondu « Eh bien, justement, si on a besoin de quelqu'un. » Et donc, 3 jours plus tard, je commençais chez Rocket.
Donc voilà.
Oui, bah oui, c'est super. Et c'est vrai que je raconte encore cette histoire de temps en temps à mes collègues parce que c'est intéressant, cette position du fait que je suis à la fois intégrée chez Rocket, mais j'étais aussi le cœur de cible, en tout cas au moins des masters. Donc j'ai cette vision un petit peu double qui est intéressante. Je peux me mettre à la place des deux. Et puis pour terminer quand même sur une partie un peu plus personnelle, sur la partie de qu'est-ce qui me passionne. J'admets que c'est un petit peu comme pour la cuisine. Je me passionne de la passion elle-même. Il y a des talents que j'essaye de travailler, comme le dessin, le chant, le sport. Je fais beaucoup de balades. J'ai la chance de vivre dans un super cadre avec plein de parcs partout. Mais je peux me passionner de plein d'autres sujets et j'aime beaucoup découvrir pas mal de choses, et notamment les gens. Arriver à les comprendre, à interagir au mieux avec eux. Je pense que c'est le sujet le plus curieux et le plus passionnant pour moi. Et c'est pour ça que, comme je disais, c'est cette dimension humaine qui m'a toujours guidée dans tout ce que j'ai fait.
Ben, mais très, très clair. Et j'aimais bien ce que tu disais quand tu parlais de l'histoire suite à laquelle tu es rentrée chez Rocket School, et le fait que tu es dans la cible. Et ça me fait penser un peu à, est-ce qu'on doit forcément aimer son produit ou son service pour faire bien son travail de l'autre côté, tu vois ? Est-ce qu'on doit être un potentiel client de son service pour réussir à bien le vendre, tu vois ?
C'est une très bonne question. Je me la suis posée à plusieurs reprises, puisque effectivement, j'ai postulé à certaines offres. Je ne sais pas si on doit être un potentiel client, mais je pense que le fait d'aimer ce qu'on fait, d'aimer son produit, son service, en tout cas de le comprendre et surtout d'être en accord avec, pour moi ça me paraît primordial. En tout cas pour le genre de personne que je suis, comme j'ai toujours dit, je suis un commercial nul. Si jamais je n'ai pas cette passion pour mon... en fait, il faut que j'arrive à être convaincue soi-même de ce que je peux retourner de mon expérience. C'est si j'arrive à moi être convaincue, je serai capable de convaincre n'importe qui. Et je pense que ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Qu'on puisse être client ou non, il faut être convaincu de ce qu'on apporte.
Eh ben, tu vas nous en parler tout de suite avec ce que tu apportes à travers ton univers pédagogie. J'aimerais bien que tu commences par nous décrire la structure de ton pôle chez Rocket School.
D'accord, parfait. Eh bien, la structure chez Rocket School, elle est très intéressante, puisque moi, ce n'était pas ma première expérience dans une école ou dans un centre de formation. Et je la compare souvent avec ce que j'ai connu. Et ce qui est intéressant chez Rocket, c'est qu'à la pédagogie, on gère quand même pas mal de choses différentes. On est comme une sorte de plateforme où on fait le lien entre plusieurs éléments. Et ce que nous, on gère à l'intérieur de cette plateforme, ça peut être à la fois les étudiants, donc sur de pas mal d'aspects, hein, sur l'aspect relationnel, mais aussi sur l'aspect de planification, de faire les plannings des étudiants, leur calendrier, la gestion des espaces aussi. Puisqu'on a des salles, il faut les attribuer, sachant que, je précise quand même, chez Rocket, il y a deux parties. Il y a une partie alternance sur laquelle moi je suis, il y a une partie bootcamp qui est sur laquelle moi je n'interviens pas et qui intervient en amont de l'alternance, donc qui dure pendant 3 mois. Et ensuite, ils viennent en alternance chez nous 1 jour par semaine. Et donc moi, je gère cette partie d'alternance d'un jour par semaine, ce qui fait que il faut faire ses plannings en fonction de ses contraintes autour. Et l'une des contraintes, c'est aussi les intervenants. Donc, on gère cette partie-là également, les intervenants chez Rocket. Et donc, aussi, le lien avec les équipes de Rocket. Donc, en fait, il y a tous ces pôles-là. L'étudiant, avec toute cette partie de planification, de suivi de l'étudiant, de ses absences, de tout ça. La partie intervenant et la partie équipe chez Rocket. Et donc, on est un petit peu au centre de tout ça. On fait le lien autant d'un point de vue humain que d'un point de vue logistique.
Très clair. Et au quotidien, ça va se traduire comment, ton rôle de CSM ?
Alors, c'est une très bonne question. Du fait de tous ces aspects-là, ça peut se traduire de manière très variée. Mais si j'en reviens à la définition même, enfin, en tout cas au cadre de ce que c'est que le métier de CSM, il y a ce qu'on appelle le low touch et le high touch. Et donc, moi, je dirais que j'interviens sur ces deux aspects-là. C'est une bonne façon de catégoriser mes missions au quotidien. Le low touch, ça va être vraiment la partie presque support technique, puisqu'on gère les signatures à distance, on gère le remote, on gère pas mal de choses qui sont finalement un petit peu techniques et puis sur lesquelles on pourrait y accoler des mod-up où on pourrait presque les envoyer comme ça et il n'y a pas forcément une plus-value humaine. Donc c'est un petit peu tous ces aspects-là que je rangerai dans ce low touch. Et puis il y a une partie high touch où là c'est plus de la gestion du projet. La formation d'un étudiant étant un projet en soi, il arrive, il débarque et puis il y a tout un processus qui se fait chez nous et ensuite il sort vers son entreprise puisque le but c'est quand même qu'ils aient un CDI à la fin et un diplôme évidemment. Cette partie-là, elle est comme je disais plutôt high touch dans le sens où on va avoir un suivi avec l'étudiant, on va créer du lien, on va avoir une relation un petit peu, une alliance qui se crée avec eux, sentiment de confiance aussi, ils vont échanger avec nous. On va par exemple les accompagner sur comment mieux communiquer avec, avec leur entreprise, avec leur manager, mais également avec leurs collègues, leurs camarades, sur de la méthodologie aussi un petit peu, comment aborder leur formation de manière plus pérenne. J'ai des étudiants qui parfois vont se sentir un petit peu perdus pour aborder une notion ou une autre, et vont parfois mettre trop de temps. Ou... Voilà, donc il y a pas mal ce type d'échanges qui sortent du cadre purement... je dirais pas du tout pédagogique, parce que ça rentre dans l'aspect pédagogique, mais purement organisationnel de la pédagogie, et c'est pour ça que je le classerais dans ce côté iTouch. Et évidemment, toute une partie, c'est réplicable finalement à toutes les parties prenantes de Roquette, puisqu'on a cette partie-là également avec les entreprises. Même si moi, je gère pas directement la relation avec les entreprises, on a des personnes qui sont là pour ça, mais je gère cette relation un petit peu liée à notamment la partie des récupérations. Quand un étudiant est absent, je prends contact avec l'entreprise, donc il y a quand même quelque chose qui se fait à ce niveau-là, et c'est là où c'est extrêmement important de bien communiquer entre nous.
J'essaye de prendre un peu de recul, tu vois, est-ce que je connais déjà, ou là j'ai plus, tu vois, de repères sur les CSM par exemple dans des entreprises de B2B, SaaS. Toi, là aujourd'hui, c'est plutôt de la relation B2C que tu fais, parce que t'as pas de clients, c'est un portefeuille d'étudiants que tu vas gérer, c'est bien ça? Et tu vends rien en fait?
Alors nous, on vend de la formation, on vend du savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses qui se vendent de plus en plus. Donc en soi, mon produit à moi, ça reste quand même la formation. Et j'irais même jusqu'à dire que parfois, on vend un avenir quand même.
Oui, 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 non, je voulais dire, tu vends pas un produit ou un service, c'est plus large
non,
que ça.
Non, exactement, c'est vraiment cet aspect CSM où nous, on n'est pas des sales pour le coup, on est vraiment sur la partie CSM. Une fois que la personne, elle est là, on la prend en charge et on fait en sorte que justement, ça se passe bien avec nous. Donc effectivement, il n'y a pas cette même notion que quand on travaille sur un logiciel SaaS où il n'y a pas de phase de et encore, j'allais me contredire moi-même, ce que j'allais dire, il n'y a pas forcément de phase de onboarding sur de la formation, des choses comme ça, mais si en fait, ça aussi, parce que quelque part, on fait du onboarding sur les étudiants pour les former à comment justement bien gérer leur formation, comment faire les signatures, comment aller sur la plateforme en ligne pour pouvoir suivre leurs cours en e-learning. Donc en fait, si, il y a toujours cette partie-là, sauf qu'en fait, on n'a pas un seul et même... logiciel, on n'a pas un seul et même produit à vendre. En fait, c'est la formation qui est notre produit de manière générale, et nous, on doit onboarder, on doit former, on doit accompagner sur toutes ces petites parties de la formation qui peuvent être parfois sur des logiciels, parfois sur d'autres aspects plus relationnels.
En fait, quand on dit Customer Success Manager, toi, ton succès, ça va passer par le succès des étudiants, à savoir si à la suite de la formation Roquette School, ils décrochent un CDI, c'est ça?
Tout à fait. Si on mettait vraiment un objectif, ce serait de dire qu'à la fin, ils soient retournés sur le marché de l'emploi et qu'ils aient un CDI. Ça, c'est l'objectif numéro un. Après, moi, au quotidien, j'ai quand même d'autres aspects de satisfaction. Typiquement, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai un étudiant qui m'appelle parce qu'il est un petit peu en désarroi face à son entreprise ou à d'autres aspects, il y a quand même cette notion de satisfaction de pouvoir les accompagner, d'avoir, c'est des petites victoires, mais d'arriver à trouver des solutions avec eux, en fait, au quotidien. Donc il y a plusieurs niveaux de succès qu'on peut avoir.
Et tes KPI à proprement parler, c'est quoi?
Mais justement, comme tu le disais, il y a cette notion à la fois d'arriver jusqu'à la fin, d'avoir une entreprise, mais lié à ça, pour arriver jusqu'à la fin, on va avoir la même chose que sur un métier de CSM, la rétention quelque part, la fidélisation, ce qui est super important, parce que si les étudiants sont satisfaits de leur formation, satisfaits de leur parcours, ils vont en parler à d'autres personnes qui viendront en fait. Donc c'est presque du cross-sale, du up-sale sur ces aspects-là, puisque ils vont ramener, en fait, ils vont être ambassadeurs de la formation et ils vont potentiellement ramener d'autres personnes, voire des entreprises aussi, parce qu'on a toute une partie de... identifier les opportunités, encore une fois, tout comme je l'avais vu dans un des précédents podcasts que tu avais fait, une personne avait parlé de ça, sur la capacité à identifier des opportunités et à les adresser. Les opportunités, ça peut très bien être un étudiant qui va me dire, bien dans mon entreprise à moi, ils ont des besoins, ils aimeraient recruter quelqu'un et donc potentiellement un alternant de chez vous, est-ce que vous avez quelqu'un? Ça, typiquement, c'est une opportunité qu'on peut transférer sur la partie entreprise, et du coup il y a des personnes qui viendront prendre contact avec cette entreprise là mais c'est super intéressant parce que c'est lié au lien qu'on crée avec l'étudiant et au fait de, d'échanger régulièrement avec lui.
Hyper intéressant, ouais. C'est top. Et donc, si je comprends bien, mais comment tu vas le quantifier, tout ça ?
On y travaille, très honnêtement. Régulièrement, on essaye de quantifier notamment les personnes qui sortent de la formation avant la fin, pour une raison ou une autre. Hein. Ce n'est pas lié qu'à l'insatisfaction, évidemment, parce qu'il y a des... Il faut savoir que chez Rocket School, on a des profils qui sont très, très, très variés. Et ça, c'est une des difficultés de cette école et à la fois une des richesses. C'est qu'on a des personnes qui peuvent s'être arrêtées à un niveau collège, bac, de pas avoir fait spécialement d'études après ça. Et on peut avoir des personnes qui ont 1, 2, 3 masters, par exemple. Et il faut arriver à combiner cette diversité-là, à dresser de manière générale cette diversité, à les intéresser là-dessus. Et donc, c'est très difficile parce que, encore une fois, il y a certaines personnes qui peuvent parfois être un peu frustrées parce qu'il y a des choses qu'ils ont pu déjà voir et d'autres qui sont super intéressées. Et donc, l'un des capiers, j'en revenais au capier de départ des personnes qui partent éventuellement de Rocket. Donc, ça peut être lié au fait qu'ils se rendent compte que la formation n'est pas forcément adaptée à leurs besoins. Mais la plupart du temps, la raison pour laquelle ils vont partir, c'est parce que simplement, ils auront trouvé un CDI. Parce qu'avant même la fin de leur formation, leur entreprise ou une autre entreprise leur proposera un CDI. Et ça arrive assez régulièrement. Et comme on disait tout à l'heure, notre objectif étant que tout de même, ils trouvent un travail à la fin, ça peut être une des raisons de partir de chez Rocket. Donc là, on est en train d'essayer justement de chiffrer ça, de savoir quel est le pourcentage de gens qui partent parce que la formation n'était pas adaptée à eux, tout en la pondérant avec ce que je disais tout à l'heure, avec leur parcours scolaire, enfin en tout cas leur expérience et leur parcours scolaire. Comme on disait tout à l'heure, il y a des profils qui peuvent avoir 20 ans, 30 ans, enfin, c'est très, très varié. Donc, on essaye de pondérer ça et en même temps de sortir ceux qui sont sortis de la formation du fait d'avoir un CDI, puisque cela, ça ne compte pas. Au contraire, c'est même objectif atteint.
Ouais, donc, c'est du churn positif, quoi, on va dire.
C'est ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est très difficile de quantifier ces KPI, parce qu'il peut y avoir, comme tu dis, du churn positif et du churn qui peut nous aider à nous améliorer en disant, bah, OK, là, avec tel profil, il faudra faire attention quand on recrute, par exemple, à la base, au niveau de bien vérifier avec eux s'ils sont conscients du contenu qu'ils vont faire, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie amélioration continue chez Rocket liée à cette phase de onboarding, de préparation de l'étudiant à ce qu'il va voir d'information, de communication. En fait. Et ça, ça fait partie des choses qu'on essaie actuellement d'améliorer de plus en plus pour diminuer finalement ce phénomène-là qui, comme on disait tout à l'heure, n'est pas forcément le plus élevé, mais qui peut arriver.
J'aimerais bien qu'on rentre dans le détail de ce portefeuille, pas de clients, mais d'étudiants. Est-ce que tu peux nous dire combien d'étudiants tu vas gérer, nous rappeler aussi la durée d'une session Rocket School et j'en profite parce que c'est vrai qu'ayant été sur le terrain en tant qu'intervenante, notamment là en marketing sur ce dernier semestre, c'est vrai que j'ai été confrontée à, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, des profils assez différent. Là, c'était sur une thématique marketing. Tu avais aussi bien des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de marketing que de personnes qui avaient deux masters. Donc, c'est vrai que c'est assez déstabilisant quand tu veux faire un cours à un public aussi hétérogène. Donc, je ne sais pas, toi, comment est-ce que tu vas le gérer ? Est-ce que tu vas segmenter ce portefeuille ? Comment ça se passe ?
Alors, la façon dont les étudiants sont segmentés, comme tu le dis, c'est en fonction de leur métier cible. On adresse trois métiers différents, les biz dev, les growth hackers et les customer success. On a ces trois parties-là. La façon dont la formation est construite, c'est qu'il y a un tronc commun qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la culture business, qui est importante à acquérir et sur lesquels ils sont rassemblés potentiellement, ces trois aspects-là, sur ce tronc commun. Et ensuite, il y a des cours de spécialisation dans lesquels chaque métier va avoir ses cours spécifiques. En revanche, sur la partie diversité des profils, c'est là où, encore une fois, il faut vraiment faire attention à cette diversité-là en amont et en même temps, qui peut être une richesse, hein, parce que nous, on essaye de passer beaucoup par le peer learning, donc l'évaluation par les pairs, le fait de s'entraider, d'amener les uns et les autres à communiquer, parce qu'il y en a qui ont des forces sur certains aspects et moins sur d'autres, et inversement. Donc on essaye beaucoup de mettre en place ces aspects-là, notamment lors des cours en e-learning, On fait des sessions après ça où on échange tous ensemble, où la personne va présenter ce qu'il a vu. Il y a des questions qui pourront être posées, essayer de mieux comprendre tous ensemble. Et c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de valoriser cette diversité-là. Mais elle n'est pas divisée en niveaux. Il y a deux niveaux chez Rocket, le bachelor et le master. Le bachelor se faisant en un an, ce qui est quand même énorme, hein, parce que je rappelle que normalement, un bachelor, c'est un bac plus 3, et qu'on arrive à condenser en un an. Donc, ils ont un bachelor en un an et il y a les masters qui, eux, se font en 2 ans, qu'aujourd'hui, on gère encore un petit peu, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, hein, sera amené à évoluer dans les prochains mois. On va dire que la partie bachelor, on vise à être opérationnel. Et sur la partie master, on vise à être plus à un niveau stratégique. Et on va essayer petit à petit de plus en plus démarquer cette différence-là. Pour que justement les personnes avec des profils un petit peu divers sachent se repérer et se disent « Ok, bah moi du coup, j'ai plus envie d'aller faire de la stratégie, donc je vais aller sur un master. J'ai plus envie d'aller sur une partie opérationnelle, je vais aller sur un bachelor. »
Ok, ouais, c'est cette manière-là de segmenter finalement les promos.
Tout à fait. Mais encore une fois, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément parce que comme c'est de la reconversion et en même temps, il y a des personnes qui viennent post-scolarité, encore une fois, c'est très difficile de gérer cette diversité-là et en même temps, c'est totalement un enjeu et un plaisir de le faire. Parce que comme on disait, il y a des personnes qui ont un background super intéressant et qui peuvent apporter aussi, qui peuvent s'apporter beaucoup entre eux. Donc, on va aller vers de plus en plus aussi de collaboration.
Ok, ouais, bah, hyper cool tout ça. Merci beaucoup, Amandine. Et si je prends un peu de recul sur tout ce que tu nous as dit, je trouve que c'est intéressant de, en fait, d'appliquer toutes les techniques qu'on connaît de CSM à la pédagogie. Parce que tu vois, ce poste de CSM pédagogie, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et pourtant, j'ai été intervenante dans plusieurs écoles. Est-ce que c'est un poste qui est nouveau ou est-ce que c'est juste l'intitulé qui change ? Tu vois, je pourrais très bien dire assistante pédagogique. C'est intéressant, en fait, ce que tu as dit, de théoriser et d'appliquer des méthodes business à la pédagogie. Mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça.
Je suis totalement d'accord. Alors, ça a été amusant pour moi au début de... essayer de rentrer dans la peau de cette CSM pédagogie, puisque moi, je pensais arriver, effectivement, comme tu l'as dit, en tant qu'assistante pédagogie. Et donc, j'ai dû me prêter au jeu de me dire, alors, OK, si je suis CSM pédagogie, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Et du coup, ça amène la question de prioriser mes missions, de voir quels sont mes objectifs. Et pour revenir sur est-ce que c'est juste un intitulé qui change ou pas, je pense que déjà, il faut se l'approprier, cet intitulé. C'est assez important. Et on pourrait se dire de premier abord que c'est très réducteur parce que finalement, CSM, on gère tellement de choses à la pédagogie, on gère toute cette notion de planification, on fait même les bons de commande, on gère pas la facturation, mais quand même, on gère quand même pas mal de choses. Et de prime abord, on pourrait se dire que c'est assez réducteur. Et en fait, je me suis aperçue au fil du temps que non seulement c'est pas réducteur, mais en plus, c'est super intéressant parce que ça permet de vraiment redonner ces lettres de noblesse à la pédagogie. Je me souviens quand moi-même, j'étais étudiante, on pouvait avoir l'impression qu'ils étaient juste là pour donner de l'information, pour gérer quelques conflits de temps en temps, pour faire tout ça. Et en fait, c'est pas du tout ça. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu besoin d'être accompagnée et ils ont toujours été présents pour moi. Ils ont fait... c'est tout l'enjeu de ce métier-là, c'est de faire du cas par cas tout en... n'étant sur le fait de pouvoir d'avoir un travail qui soit réplicable pour tous, en fait. C'est du sur-mesure réplicable. C'est très particulier, il faut jongler entre ces deux positions en permanence. Et c'est en ça que je trouve intéressant de donner ce titre de CSM. C'est cette flexibilité-là qu'on ne ressentirait pas forcément dans l'intitulé de assistant pédagogie ou même de responsable pédagogie tout court, en fait. Parce que la pédagogie, aujourd'hui, c'est un mot un petit peu tiroir dans lequel on y range ce qu'on veut. Et le fait d'y accoler ce terme de CSM, on va montrer que l'étudiant, finalement, il y a toute cette relation humaine qui se met en place et toute cette notion également de projet qui se met en place. C'est un projet de vie pour eux. C'est super important. Et comme on disait, ça redonne vraiment ces lettres de noblesse au rôle de la pédagogie. Ce n'est pas juste un pôle organisationnel, c'est un pôle qui va être là pour accompagner, pour être dans l'humain avant tout. Et ça, c'est super chouette d'avoir cet aspect-là.
Bon, bah, j'ai hâte d'avoir ton retour d'expérience alors sur ce poste. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter une anecdote gratinée ?
Gratiné. Alors honnêtement, pour commencer quand même, parce que après il y en a qui sont assez personnels avec les étudiants. Le but c'est pas d'exposer les choses non plus, mais j'admets que c'est un métier dans lequel je pense que je n'ai jamais autant ri dans mon métier que dans celui-là. Pourquoi? Parce que on gère énormément l'angoisse finalement des étudiants. Et moi, ce qui me fait sourire aussi, c'est que ça me ramène à mon expérience d'étudiant aussi, à mes incertitudes. Et quand je les vois, eux, parfois même des personnes qui ont des années d'expérience et qui se retrouvent un petit peu dans l'angoisse par manque d'informations ou parce qu'il y a un truc qui n'est pas clair, parfois ça peut arriver à des situations très, très amusantes. Ça, je l'avoue. Et j'ai quand même une anecdote qui est liée à mon arrivée. Parce qu'encore une fois, on gère énormément de promotions. Il y a une douzaine de promotions à l'heure actuelle et qui continuent de grandir parce qu'on est au Apollo 14, pardon, qui sont donc les BizDev, donc Apollo 14, c'est-à-dire que 14 avant ça. Même si, pour la petite anecdote sur cette formation-là, nous n'avons pas lancé les Apollo 13 parce que c'était un lancement malheureux. On ne voulait pas porter la poisse à cette promotion-là. Donc, on a sauté de 12 à 14. On a aussi les Spoutnik qui sont les gros hackers. Et aujourd'hui, on en est au Spoutnik 6, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'ils sont en bootcamp à l'heure actuelle. Et on en est aux Artemis 2, donc les Artemis qui sont les CSM. Donc voilà, ça permet déjà de poser le cadre de tout ce qu'on gère, sachant qu'à chaque fois, il y a des bachelors et des masters, et qu'il faut savoir que chez Rocket, les rentrées, c'est tous les 3 mois à peu près, 2-3 mois. Donc, ce n'est pas des rentrées annuelles, c'est des rentrées régulières. Donc déjà, il faut poser ce contexte-là lié à cette anecdote, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de gens à gérer. Et la première fois où je suis arrivée, j'ai essayé de monter en compétence très rapidement parce qu'en fait moi je suis arrivée dans le cadre d'un remplacement. Je ne l'ai pas forcément précisé au début, mais je suis arrivée dans le cadre d'un remplacement. Donc l'objectif en général quand on remplace quelqu'un, c'est d'être opérationnel le plus rapidement possible. Et j'ai été mise dans le bain très tôt, donc notamment sur un aspect, sur le fait de faire l'appel le matin en cours. Donc on passe dans la classe, on a une liste d'étudiants et on fait l'appel. Ce qui est super important parce qu'après, on va lancer des signatures électroniques. Et donc, à ce moment-là, je fais l'appel un petit peu pressée, un petit peu nerveuse aussi, hein, c'est évident, je suis face à des étudiants. Et puis, en termes de positionnement, je rappelle quand même que j'ai 26 ans, je pourrais être leur camarade, donc c'est pas toujours évident de gérer cette partie-là. Et donc, je fais le tour de toutes les salles, je reviens, je m'assois à mon bureau, et là, je regarde qui est absent, qui n'est pas absent. Et encore une fois, comme on est dans la relation, j'envoie quand même un petit message, on travaille sur Slack, j'envoie un petit message sur Slack à la personne en lui disant je ne t'ai pas vu. Est-ce que tu peux me dire si tu es absente ou s'il y a autre chose, est-ce que tu es en retard, tout ça. Donc là, grand moment de solitude, la personne me répond gentiment, avec toute bienveillance. Alors si je suis là, et vous m'avez même demandé si vous aviez bien prononcé mon nom. Grand moment de solitude. Bon après moi comme j'ai beaucoup d'humour, du coup je réponds encore une fois avec un grand sourire et la personne l'a très bien pris. Mais voilà, donc c'était ma première petite anecdote chez Rocket School.
Et en parlant de situation gênante, quelle est toi la situation la plus compliquée que tu as vécue?
La situation la plus compliquée que j'ai vécue, je dirais que c'est une période avec une promotion où c'était un petit peu compliqué, il fallait gérer la frustration. Et la gestion de la frustration, elle est vraiment compliquée. Encore plus, c'est pour ça que c'est une bonne transition à faire avec la situation sanitaire actuelle. On a été obligé de basculer en remote, alors ça se passe bien, évidemment, mais ça les éloigne de nous, de cet aspect humain, et ça peut générer encore plus de frustration que ce qu'il peut y avoir à l'initial. Et ce qui est compliqué, cette situation que moi, personnellement, j'ai vécue compliquée aussi, c'est que on est à la fois leur porte d'entrée et il y a certains moments où on est dans l'impuissance. On ne peut pas donner de réponse immédiate, même si on les habitue à une certaine forme d'immédiateté, étant donné qu'on communique avec eux par Slack. C'est très, très frustrant de ne pas pouvoir apporter de l'information dans l'immédiateté ou de pouvoir changer la situation, de pouvoir leur expliquer. Il faut arriver à tempérer cet aspect-là et du coup, c'est une des complexités relationnelles du métier, c'est de gérer cette instantanéité et cette frustration en parallèle. La frustration et les angoisses des étudiants, même s'ils arrivent à la canaliser hein, pour beaucoup, il faut quand même arriver à la gérer. Je pense à une autre situation compliquée. La première semaine où je suis arrivée, on gérait ce qu'on appelle les restitutions orales. Et en parallèle, il y avait il y avait tout un flux de discussions autour d'un sujet qui avait été mal compris. Et en fait, ça fait vraiment effet boule de neige. Donc, autant la frustration que l'angoisse que tout ça, c'est vraiment les situations les plus compliquées à gérer, c'est quand il y a un effet boule de neige. Donc, on essaye de mettre en place des choses comme des référents de promotion pour essayer de limiter cet effet-là. Mais c'est vraiment cette partie qui est la plus complexe à gérer.
Alors, je vois que le temps file. Du coup, je vais te poser mes dernières questions un peu à la volée. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu as démarré ce métier ?
Honnêtement, moi, j'aime vraiment le métier que je fais aujourd'hui. Je me lève le matin. Si vous me croisez dans le métro, je danse et je chante. Donc, je pense que c'est bon signe. Et je pense qu'on m'a donné les meilleurs conseils. J'ai un très, très bon manager et je leur remercie beaucoup pour ça. Au fur et à mesure, même si on m'a onboardé très rapidement, on m'a donné tous les bons conseils. Mais comme je disais tout à l'heure, si vraiment j'avais les conseils à donner, c'est de se référer aux fameux accords Toltec, qui sont des très bonnes règles de vie, d'avoir une parole impeccable, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est super important, la communication avec eux, d'être dans une forme de transparence, d'honnêteté, parce qu'ils le sentent quand il y a des choses qui vont pas, de ne rien prendre personnellement, parce que, encore une fois, il y a toutes ces angoisses, toutes ces émotions qui transitent, et si on se protège pas de ça, eh ben, les journées, elles peuvent être très complexes et très chargées, toujours faire de son mieux, qui est quand même super important, leur montrer qu'on est là pour eux, qu'on fait de notre mieux, et ça marche pour tout le monde. Donc, moi, c'est un conseil que j'essaie d'appliquer tout le temps. Mais si j'avais à le redonner à quelqu'un d'autre, c'est vraiment de penser à ça quand on est face à cette situation-là, ces situations complexes à gérer.
Et comment va évoluer le métier de CSM dans quelques années, selon toi ?
Pour moi, il va y avoir toute une part d'évangélisation à faire, d'explication des métiers. Et je pense de gros travail de définition, parce que comme tu l'as dit en préambule, on ne s'attendrait pas à avoir un CSM à la pédagogie d'une école, et pourtant, me voilà.
Et le podcast est là pour ça aussi.
Exactement, exactement, et c'est pour ça qu'il y a une très belle évolution, et ça se voit dans ton podcast, comme tu le dis, c'est que tu as vu qu'il y avait ce côté CSM, et j'imagine que petit à petit, il y a d'autres endroits où tu n'aurais pas imaginé en voir et où va y en avoir. Et donc, du coup, il va y avoir ce gros travail de définition de quelles sont les trames de ce métier-là spécifiquement. J'avais vu effectivement le débat que tu avais fait pour essayer encore une fois redéfinir ces lignes-là. Donc, pour moi, c'est de cette façon-là qu'il va évoluer. C'est d'aller vers de plus en plus de précision dans qu'est-ce que c'est qu'un CSM.
Top. Et enfin, pour clôturer notre discussion, quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton quotidien et pourquoi ?
Comme j'aime bien l'humour, je dirais Big Brother, parce que quand même à l'heure actuelle, en remote, je me sens avoir les yeux partout, dans les cours qui sont remote, je passe les voir, je vois si tout se passe bien. Alors évidemment, il n'y a pas d'atteinte à la liberté comme dans le livre en question, mais pour le coup, ça me fait un peu cet effet-là par moment. Et puis encore une fois, Big Brother, c'est quand même une dystopie assez forte, et dans la crise actuelle, on essaye de faire face à tout ça tout en étant là, humain, en restant humain, mais tout en étant présent. Donc ça peut potentiellement résumer mon quotidien de manière assez humoristique.
Ouais, trop bien. Et pour avoir donné des cours en visio, honnêtement, c'est pas facile.
C'est très, très dur. Il faut beaucoup, beaucoup d'énergie, encore plus qu'en physique, parce qu'il faut donner de sa bonne humeur, il faut donner de sa personne. Et clairement, je te comprends là-dessus, c'est vraiment pas évident.
Merci beaucoup Amandine, très chouette d'être venue au micro d'Am Cam Gram. Petite dédicace à Cyril quand même, on ne va pas l'oublier,
oui, c'est vrai,
qui a créé Rocket School. Et je te souhaite une bonne continuation et plein d'autres promos à venir et de planètes à conquérir.
Eh bien, je te remercie bien et surtout, je te dis à très bientôt, parce qu'effectivement, on va bientôt se revoir.
Salut.
Salut.